Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? Une émission où on analyse, on réfléchit, on commente l'actualité. Cette semaine, nul autre que Jules Simard va venir amener la lumière de sa sagesse éternelle.
On va à tout le moins commenter des points d'actualité. Ça fait un petit bout, là, quand je n'ai pas vu.
Ben oui, on a eu des activités chacun de notre bord.
Ouais,
je pense que la nouvelle job de grand-papa...
Oui, elle a été un peu occupante.
C'est correct. On va débuter ça avec un sujet dont, on parle à quelque part même un peu de toi. 25e anniversaire du Nouvel Hebdo, la semaine prochaine.
Ben, en fait, la première édition, hier soir, il y avait... Une rencontre là, de pour souligner un peu ce 25e anniversaire du Nouvel Hebdo. Et Michel Aubé, le fondateur, me disait que la première édition, c'est le 5 novembre 1996.
OK.
OK, qui a eu lieu. Et je sais qu'il va paraître la semaine prochaine là, une édition spéciale un peu sur ce 25e anniversaire. Ça fait déjà 25 ans. Moi, je trouve ça peut-être important, non pas parce que j'y ai nécessairement travaillé, mais parler de 25 ans de vie d'un hebdo local.
Ben oui, c'est l'importance que ça a dans la communauté.
Dans la région, tu as le Progrès Dimanche, qui est effectivement un hebdomadaire qui à caractère régional, là, qui fonctionne encore. Il est même encore, excuse-moi, en version papier.
Oui.
Et puis le Nouvel Hebdo n'est pas le plus âgé, mais dans le secteur, effectivement, il demeure celui qui actuellement est le plus âgé, le plus vieux.
Oui, parce qu'à l'époque, moi, je me souviens, quand j'étais petit, on avait Le Point.
Oui.
Et puis le Nouvel Hebdo est arrivé, et puis à un moment donné, Le Point est parti, et puis le Nouvel Hebdo a gardé le flambeau, pas sans heurts. Je pense que ça n'a pas été simple tout le temps. Là. On a vu ça, la transformation des médias aussi avec le web.
C'est ça. Et on me demandait d'écrire un papier qui va paraître la semaine prochaine. Et ce que je souligne, c'est que moi, à la naissance du Nouvel Hebdo, sur un journal papier, et la façon donc de traiter l'information via un hebdomadaire, ça s'est fait en même temps que la naissance un peu des médias sociaux. À la fin des années 90. Or, pour qu'un média puisse durer encore après 25 ans, et Dieu sait que comment est-ce que les médias sociaux ont pris de la place, il faut quand même qu'il y ait eu une volonté du milieu de faire en sorte que ce journal-là puisse persister, tant au niveau des lecteurs qu'au niveau des annonceurs, naturellement. Sans ça, ouais. Il y en aurait plus. Parce que, où on avait à se battre, puis je soulignais, à tout le monde, on avait deux grands défis. Quand Michel Aubé a mis le journal au monde, c'était, un, de pouvoir être en mesure d'informer adéquatement la population, et deux, de faire référence à des médias sociaux dont la nouvelle n'est pas nécessairement vérifiée.
Bien, okay.
Ça, c'est un des gros phénomènes.
Est-ce que ça serait un avantage, notre situation géographique? Dans le sens, on est dans la région, on est plus éloigné des grands centres, donc on traite peut-être moins régionalement les dossiers ou les sujets qui touchent les citoyens ici. Est-ce que ça peut avoir un impact sur la durabilité?
Oui, à l'évidence. Ça, de parler, c'est comme je disais dans mon texte, je m'excuse de me citer, mais comme je disais, le fait de parler de son voisin, c'est pas du bavardage. C'est de souligner tant ses bons coups que peut-être des coups qui ont été un peu peut-être moins bons, mais collectivement, avec l'esprit de le traiter, son impact sur la collectivité. Tu sais, quand tu fais un reportage sur un fils de la région qui travaille à l'Université de Trois-Rivières au niveau de l'étude sur l'Alzheimer, OK? Et c'est un prof d'université, puis c'est un chercheur à ce niveau-là. C'est un gars qui est originaire d'ici, de Péribonka. Moi, je me souviens du texte que j'ai fait dessus. Bien, ça, je trouve ça pertinent.
Ouais.
Tu comprends? Tu dis au monde, écoutez, il y a du monde qui naît ici chez nous, là, et puis qui sont capables aussi je mets cet exemple-là, mais ces exemples-là sont multiples. Et tu sais, au début aussi, quand Michel a parti ce journal-là, il y en a quelques-uns qui critiquaient pas mal parce que tu avais beaucoup de en direct de « Hey, tu savais ça que tu piégeais tes lecteurs? » Avec ça, tu as piégé tes lecteurs. En direct de Notre-Dame-de-Lorette, là, « Hey, combien de temps que tu faisais, toi, pour être soit à radio ou à TV? »
Ben oui.
Hein? Ou encore dans les journaux? Rarement. Sauf que là, tu avais en direct de, une activité communautaire qui se tient puis qui est annoncée, où on a fait un texte là-dessus, ou encore, et en discutant avec Michel hier, on se souvient, on avait une page de photos. OK, des événements mis en photo, où le monsieur Untel ou madame Untel là, qui avait... Et ça, tu mettais une photographie. Tu pièges ton monde, là. Elle dit, ah, regarde, écoutez-vous dans le journal, là.
C'était le goût d'aller
ça,
voir.
Là, c'est exactement. Ce phénomène-là a fait en sorte. Il y a peut-être quelque chose qu'on nous a accusé aussi dans le temps d'être peut-être sexiste, mais on avait le sourire de la semaine.
Oui.
OK? Et le sourire de la semaine, oui, il était au départ féminin, mais il y avait, Michel racontait hier soir qu'il allait voir peut-être un annonceur éventuel. Puis l'annonceur dit, oh, ouais, non, moi, je mets pas d'argent dans la publicité, dans la nouvelle. Fait que Michel, il dit, je sortais là, je prenais la photographie de la personne qui était à l'accueil, qui était une fille habituellement.
Ouais.
Et il dit, je l'avais. Puis elle passait la semaine d'après. Et il dit, tu peux pas savoir le nombre de téléphones qu'elle recevait dans le business. Hey, écoutez-vous dans le journal, t'as fait la souris de la. Et il dit, la semaine d'après, il dit, j'avais la publicité qui était achetée par le propriétaire. Non, mais non, tu comprends mais... ce genre de.
Ben,
c'est
oui.
Ça. C'est puis... comme ça. C'est ça, le journaliste de proximité aussi.
Puis on l'a vu, là, lors de la dernière campagne électorale ou municipale. Je veux dire. S'il n'y a pas le Nouvel Hebdo, c'est quoi la couverture qu'on fait des conseillers?
Il n'y en a pas eu.
Passe,
il n'y en aurait pas eu. Et là, on pouvait à tout le moins s'informer, effectivement, des positions des candidats et des candidates qui se sont présentés à ce moment-là. C'est véritablement un miroir. Tu écris l'histoire quotidienne, hein, quand tu, même si
ben,
tu passes un hebdo.
C'est
ça. T'écris, et tu relates. Déjà, moi, j'ai toujours été préoccupé par l'aspect de l'humanisme. OK? Jamais relater ou compter des choses qui se rapportaient à des. À, non seulement des individus, mais à des réussites humaines dans notre
ouais,
milieu.
Ouais.
Et ça m'intéressait beaucoup et, de le traiter. Que ce soit un entrepreneur qui utilisait du bois pour construire de grands pas des aéroports, mais des hangars d'aéroports faits en bois, avec des structures en bois. C'était une. T'as un gars d'ici, puis une entreprise d'ici qui faisait ça, puis qui allait bâtir ça
partout
au Québec. Ça, là, il faut que ça se dise. Puis il faut qu'on soit fiers aussi.
C'est un élément de fierté
locale,
en fait.
Exact.
Parce que là, on reconnaît les gens, on connaît notre monde, on est content de voir qu'il se passe telle ou telle affaire.
Puis c'est un peu pour ça que, tu sais, 25 ans, puis je terminais mon article en disant. Dans un monde où est-ce qu'il y aura un autre 25 ans du journal Le Nouvel Hebdo et est-ce que ce journal-là va être papier ou web? Parce que le journal Le Nouvel Hebdo, en passant, et Michel le relatait, a été, semblerait-il, le premier journal au Québec à être sur le web.
Ah!
Et Michel racontait hier, je m'excuse de faire en sorte, parce que j'y parlais, Michel racontait que quand il a été mis sur le web, il a reçu un téléphone d'un professeur de l'université de Boston qui enseignait le français à ses élèves et qui avait dit, vous voulez maintenant voir c'est quoi écrire en français, je vous invite à aller sur le web, sur la page web du journal Nouvel Hebdo. Alors, tu comprends, je veux dire, on avait une emphase de main, mais pour une utilisation et non pas nécessairement pour s'informer. Il y avait aussi une chronique, puis je vais terminer là-dessus, il y avait une chronique, t'es rendu où, toi?
Oui, ben oui.
Hein? Ça, là, ça fonctionnait aussi beaucoup. Et là, tu t'informais de gens d'ici qui étaient rendus ailleurs et qui performent. Alors, c'est un peu ça que je voulais aussi relater soulignant ce 25e anniversaire, en espérant que ça se maintienne, et de faire en sorte qu'il ne faut pas qu'on oublie que le journal Nouvel Hebdo, oui, il est papier, mais il est aussi dans un milieu où le papier a fait vivre la population.
Très, très connecté sur son territoire.
Exact.
Bravo, 25 ans au Nouvel Hebdo. J'espère que ça continue.
Oui.
On va rester dans le politique. On sait que dans moins d'un an, il y aura des élections au provincial.
Oui.
Déjà, la députée Nancy Guillemette du comté va solliciter. Elle a annoncé qu'elle allait solliciter un deuxième mandat. Quel bilan tu fais de son arrivée au pouvoir, de sa gestion comme députée? Tu en as vu beaucoup des députés dans le coin. Comment tu analyserais son travail jusqu'à maintenant?
Ben là, moi, où son travail a été perturbé, OK? C'est, bon, qu'on le veuille, non, là, la COVID, là.
Ben.
Hein? Ça l'a, tu sais, elle siégeait
en ligne
souvent de fois. Tu avais des comités en ligne, puis ces choses-là. Moi, je dirais que sur certains types de dossiers, par ailleurs, je vais y aller doucement. Là. OK, j'y vais doucement. Sur certains types de dossiers, je reviendrai sur la question de la COVID. Tu te souviendras qu'au niveau de la COVID, au début, on n'avait même pas de place ici dans le secteur pour faire des tests. Il fallait que tu y ailles soit à Roberval ou soit à Alma. Moi, je pense que ça, sur ce genre de décision-là, oui, je sais que c'est le ministère de la Santé et les CIUSSS qui prennent la décision, mais puis je sais que Mme Guillemette a essayé de faire des choses, mais... Tu sais, moi, je me souviens de l'avoir interviewé puis qu'elle m'avait dit, « Ben, tu sais, il n'y a pas eu de cas. »« Ah, mais Riboire, il n'y a pas eu de cas, mais t'as pas de place. Fallait que tu y ailles ailleurs pour avoir des tests. Avec ton test, il était de Roberval ou d'Alma pour pouvoir savoir.
Ouais, »
Mais c'est pas grave, là. Tu comprends ce genre de réflexion-là? Je pense qu'aujourd'hui, elle ne doit plus le dire. Parce qu'elle a appris, effectivement, fort probablement...
Ben, c'est sûr qu'elle, c'est la première fois qu'elle est députée, donc elle avait tout à apprendre. Hein?
C'est ça.
Elle n'est pas arrivée à l'élection, elle est arrivée à la partielle, donc... Puis elle prenait la place de l'ancien premier ministre aussi.
Oui,
tout ça là, dans le secteur. Mais je pense qu'elle a pris ses repères. Hein, elle a pris le temps de prendre ses repères dans le secteur.
Puis de voir exactement... Ben, le fait aussi qu'elle ait son équipe d'attachés politiques dans le comté, elle était répartie avec quelqu'un qui était en permanence aussi.
Oui.
Je sais bien que les autres députés faisaient aussi la même affaire, mais qu'elle ait maintenu cet élément-là, ça permettait d'assurer, à tout le moins, dans les deux MRC, une présence physique du bureau du député. Et ça a été un point qui... Je pense qu'il n'y a plus de grands députés qui ne peuvent pas faire ça.
Oui. Puis c'est certain aussi que là, comme nous, elle doit voir les sondages et voir que la CAQ est en avance. Ben, donc,
c'est
intéressant de se présenter quand tu as l'impression que ça va, je dirais pas être facile, mais donc que tu as le vent dans le dos plus que dans la face.
Oui, exact. C'est sûr et certain que ça aide à prendre une décision à ce moment-là. Et on va voir maintenant qui va être là sur les autres partis politiques.
Les blocs de départ, as-tu des scoops?
Non. Okay. Je n'en ai pas.
Non, mais ça, on est encore tôt, là.
Ouais, c'est ça.
Mais il est tellement bien plugué.
On a des idées, peut-être, de candidature, mais pas nécessairement des annonces ou des avances. Mais il y a fort probablement des gens là, qui se disent, bon, c'est peut-être le temps ou...
J'en connais un, moi, dans ma tête, que j'ai l'impression que...
Qui va y aller?
Oui, mais bon, comme dit, il n'y a rien d'annoncé.
T'en parles pas.
Non, parce que pas officiel, veut pas mettre de pression sur personne.
C'est beau.
C'est beau. Bleuet. Dossier Bleuet. Donc, on sait que... Il y a une compagnie, comment il s'appelle, Bleuet, qui avait demandé, en fait, de pouvoir transformer, d'usiner le Bleuet à l'extérieur de la région.
Oui, on se souvient de ça, oui.
Et là, ça a été refusé. On dit non. Monsieur Leblon semble être déçu, mais qu'est-ce que tu penses de cette décision-là? Est-ce que c'est une bonne idée de pouvoir garder la transformation et tout ce qui se passe au niveau du Bleuet sur le territoire?
Bien, en fait, c'est une première transformation, là, que ça c'est de la congélation. Tu sais, je veux dire, si tu veux transformer ton Bleuet que tu achètes congelé et tu veux le transformer en confiture, fort probablement que plus tu vas être proche de... Ça a toujours été le même problème, ça.
Ben, ouais.
Plus tu vas être proche de ton marché, mieux ça va être. C'est plus facile de transporter de la matière première que de transporter du produit fini.
Ouais.
Ça coûte moins cher et ça. Mais si, au niveau de la première transformation, au niveau de la congélation, moi, je suis d'accord à ce qu'on puisse conserver une certaine propriété de ces bleuets-là en région.
Parce qu'elle associe aussi l'industrie au territoire. Ça, c'est important, la territorialité.
Oui, c'est ça, il y a cet élément-là. Et même la renommée, quand même, du bleuet qui est originaire, entre autres en forêt, qui est originaire de la région, entre autres chez les Japonais. On voulait de ce bleuet-là. Alors, je pense que c'est un élément, tout le moins, sur lequel... mais il restera toujours que si j'achète... je prends avec mon bleuet congelé, puis je vais en faire une forme de confiture. Ça va peut-être être plus pratique de le faire. Il faudra en parler, d'ailleurs, à des usines de transformation qui sont ici.
Ouais.
Et, tu sais, je veux dire, la difficulté repose effectivement... ton produit fini, là, quand tu l'envoies, tu as un coût qui est quand même là, tandis que c'est comme transporter des bio.
Ben, en fait, c'est l'histoire de la région. Ben, moi, depuis que je suis petit, on me parle de la deuxième, de la troisième transformation. On a hâte de l'avoir. Augmentation de la possibilité forestière d'un gros 1 %.
Ça, j'ai pas vu ça.
T'as pas vu ça?
Non, ben, j'ai été dans le bois pendant 2 semaines.
T'étais là, t'es dans...
Mais j'ai pas vu... ça a été... annoncé par le ministère, ça, ou par le ministre?
Bien là, je ne sais pas qui l'a annoncé,
okay.
Mais on le sait, de toute façon, avec tout ce qui s'en vient, protection du caribou forestier, gestion du territoire avec les Premières Nations, etc. Bon, là, on dit on peut augmenter la possibilité, mais de 1 %, je ne suis pas certain que l'industrie est heureuse.
Ce qui se coupe, là,
ouais.
Ce qui se coupe, c'est ce que la nature te permet de pouvoir couper sans affecter ton,
ta
ressource de base. OK. Et quand on en coupe plus, c'est parce que là, on affecte le potentiel de croissance. Alors, si on augmente de 1 %, c'est fort probablement par de savants calculs qui nous permettent de dire, oui, on peut l'augmenter là, de 1 %. L'industrie, au départ, elle gère ce que le gouvernement est en mesure aussi de pouvoir donner. OK? Ouais, oui, je vois encore Garneau dans le temps de Richelieu qui disait « Ah, j'ai pas assez de bois. » Peut-être qu'il n'y avait pas assez de bois, mais c'était le potentiel que ce que le ministère avait calculé que nous étions en mesure de pouvoir remettre. Et s'il y en avait plus, il prenait une autre compagnie. Donc, souvent de fois, c'est ce qu'il faisait, il achetait une autre compagnie. Mais, je pense qu'il faut qu'on maintienne là-dessus, au niveau du régime forestier, qu'on maintienne la capacité de production de nos forêts. OK? Et si on est capable d'augmenter de 1 %, tant mieux, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est utilisé.
Puis, dans le même dossier, protection du caribou forestier, on sait que le gouvernement a comme remis ça après l'élection.
Oui, encore, ils donnent ça à un comité.
Est-ce que tu as plus l'impression qu'ils n'ont pas voulu se mouiller pour ne pas déplaire à personne, ni aux environnementalistes, ni aux forestiers, pour dire, ben, on pèle ça en avant quand ça fait 20 ans que ça devrait être réglé? Là.
Et ça fait 20 ans qu'on pèle ça en avant. Mm. OK. Je pense à la question qu'il faut se demander, moi, là-dessus, là, sur la question de la protection du caribou forestier. Ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que il faut absolument que l'on mette, que l'on cloue des territoires et qu'on dise on ne fait que du caribou forestier là-dedans, on ne fait plus d'exploitation. Je te rappellerai qu'une forêt, peu importe, attend. À un moment donné, après un certain âge.
Le caribou, il se promène.
Il se promène aussi là-dedans. Bon, les jeunes pousses, ils en bouffent. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai énormément de difficultés à me faire une opinion précise sur la question du caribou, de la protection du caribou forestier. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné, est-ce que c'est vraiment juste le point de l'exploitation forestière qui a fait en sorte que le caribou forestier n'existe plus dans nos forêts?
Écoutez, moi, j'ai écouté un spécialiste, un biologiste spécialiste cette semaine, puis il avait des propos très intéressants. Entre autres, il disait que lui, une fois qu'on coupe puis que ça commence à repousser, le caribou, c'est pas là qu'il se nourrit. Ça amène l'orignal à se nourrir là. Fait que ça diminue son territoire encore et ça amène à avoir plus de meutes de loups, entre autres, qui risque d'éliminer et les cheptels de caribou et les cheptels d'orignaux. Donc, c'est plus problématique que le caribou forestier, en fait, de ce que j'ai compris. Mais tout ça est vraiment dû aux zones où le caribou se nourrit, là. Puis on le sait, il y en a de moins en moins. Bien, moi, je pense que la vraie question, c'est est-ce qu'on veut vraiment le protéger? Parce que moi, j'ai l'impression des fois... Tu sais, la baleine, on veut la protéger parce qu'on la voit souvent. Le caribou, là, t'en as-tu déjà vu un caribou?
Oui, oui.
Bien, c'est ça. Je pense que ça, Bien, tu pourras regarder dans tes poches, t'en as peut-être tu t'es 25.
Ah oui, il y en a chez 25 cents, mais c'est pas le forestier.
Oui. Oui, oui. Notre-Dame-de-Lorette, hey, il se passe... On a annoncé beaucoup de projets les dernières années à Notre-Dame-de-Lorette. Et là, on dirait que tout aboutit en même temps. Nouvelle station-service, le chalet du 49e. On pense même faire des constructions de domiciliaires. C'est le fun pour Notre-Dame-de-Lorette?
Oui. Il reste que ce sont des projets aussi hein, qui ont été actuellement, qui peuvent être mis de l'avant ou avant, encore plus avancés. En raison de l'argent aussi que l'on met à la disponibilité des régions après la COVID. OK? Mm-hmm. Tant mieux. Ben oui. Et si on peut faire aboutir de ce projets-là qui vont fort certainement aider à enrichir le milieu davantage. Moi, c'est chapeau pour ça. Là, OK? Maintenant, de là, de dire que ce sont. C'est pas nécessairement de nouveaux projets. OK? C'est, oui, de la
connotation. C'est la finalisation, oui, c'est ça.
La finalisation, le
point. Mais quand on. Mais c'est parce qu'on a tellement entendu de projets qui se sont jamais. On n'a jamais vu la fin, que c'est le fun aussi de sentir
de voir que ça
des accomplissements.
Que ça puisse se réaliser. Hein, ouais. Tu sais, veut dire, on dira ce qu'on voudra, là, mais la passerelle du 49e, là. Tu sais, ça devait être au départ pour aider à l'industrie au niveau du skidoo et au niveau du quad. Bon, tant mieux si ça...
Ça l'a aidé, ça
l'a fonctionné. Bon, oui, si ça fonctionne. On sait qu'il peut y avoir, qu'il peut se greffer à cela des activités à caractère touristique aussi qui peuvent s'y glisser ou s'y greffer. Tant mieux aussi. Ça va faire aussi partie de projets qui vont... se ressortir. Entre autres, pas la passerelle, mais le projet du chalet à Notre-Dame-de-Lorette, ça s'inscrit
là-dedans. Ben oui, parce qu'il n'y a pas de chalet s'il n'y a pas de passerelle.
Non.
C'est ça. OK, bien, c'est le fun. Un autre projet dont j'avais vraiment le goût de parler, parce que je l'attends depuis longtemps, c'est le grand retour de la maison du Père Noël à Gérardville. Quel lieu fantastique! Ben moi, je trouve, là, j'adore aller là avec les enfants. C'est vraiment magique. C'est le fun, ça. C'est un beau...
Oui. Ben, et ça a un rayonnement qui va au-delà de la MRC. Hein?
Ben, absolument.
T'as beaucoup de Saguenayens dans le temps. L'ex-maire de Gérardville et l'ex-propriétaire aussi de ça me racontaient dans le temps qu'effectivement, beaucoup de Saguenayens et de Saguenayennes venaient
enfin, ils venaient dans le nord.
Oui, ils venaient pour voir la maison du Père Noël. Ça a été un bon petit projet, ça, qui a vu le jour. Mais le problème, c'est de le faire vivre
ben oui,
plus longtemps.
Ben oui.
Hein, tu sais, c'est quand même des investissements...
Oui, puis la période reste limitée.
Exact. Là. Je veux dire, tu commençais le 10 décembre, puis tu finissais le 10 janvier. Ça te fait un mois, là, ça, là.
Oui, puis là, c'est s'il y a de la neige.
Oui, ça te prend...
Parce que, bien, là, il y en a, ça va en avoir, mais est-ce que dans 20 ans...
Là, on ne sait plus, là, avec tout ce qui s'en vient comme changement climatique. Mais en tout cas, oui, c'était un beau projet. Et, bon, il avait été arrêté, et en raison de la COVID, je pense, et aussi en raison de la difficulté.
Là,
oui, on voulait... transférer ça de
la maison. Ouais. Ouais. Super. Bon, là, on va parler d'un sujet qui va te toucher, hein, parce que c'est deux choses qui te touchent vraiment, les journaux et l'histoire. Parce qu'on sait que t'es plus jeune, là, on va se le dire. Non, mais la Société d'histoire, généalogie, excuse-moi, ça me fait rire, ont en fait un projet de numériser tous les journaux locaux depuis 1946. Donc, on va pouvoir avoir accès à notre histoire locale, mais juste avec quelques clics. Ça, c'est extraordinaire.
Oui, ça fait suite aussi. Tu te souviens, l'année dernière, Bien, je dis l'année dernière, en fait, c'est encore le temps, mais on a voulu souligner le 50e anniversaire de la télévision communautaire.
Absolument.
Et on avait effectivement numérisé, entre autres, à partir de la banque de vidéos qu'il y avait à Normandin, on a numérisé, entre autres, la première émission de tout. Que tu peux maintenant aller consulter. Et ça a été un projet qui a été réalisé, effectivement, grâce aussi à la Société d'histoire. Alors, le fait de pouvoir numériser l'ensemble de tous ces journaux-là, qui est depuis 1946, bien, au moins, c'est un point sur lequel, quand tu vas vouloir faire une petite recherche à caractère historique, bien, tu peux au moins aller voir aussi qu'est-ce qu'on en a dit dans...
C'est l'accès à l'information, l'accès à notre histoire, l'accès à notre patrimoine. Il y a quelque chose d'éducatif là-dedans aussi.
Oui.
Même pour moi, je pense, par exemple, je ne sais pas, moi, je suis un enseignant ici à l'école secondaire. Je veux chercher un article ou une période, mettons, sur la fusion ou le célèbre Toit du Mail. Il faut que je retrouve. Non, là, tout est disponible. Fait que ça nous amène vraiment à être plus
pédagogique. Est-ce que tu as su un peu de quelle façon? Oui, mais de quelle façon est-ce que cette numérisation se fait? Et comment est-ce qu'on peut faire les recherches? Est-ce qu'il y a une thématique?
Non, j'ai pas, mais je me promets d'aller faire un tour.
Oui, pour voir au moins de quelle façon. Ça, supposons qu'on veut effectivement voir les textes sur la construction du mail. Est-ce que si je ne sais pas à quelle année trop
mais non, c'est ça, mais c'est je pense ça, qu'il va. Ben, je pense que c'est essentiel parce que je sais pas si tu as déjà travaillé avec des microfiches. Là,
ouais.
Mais quand tu ne t'as pas abonné, c'est très long. Mais maintenant, avec la numérisation, tout ça, j'ai l'impression qu'on peut faire aussi des index avec les sujets, pendant les années pour pouvoir nous aider.
Pour pouvoir aider à aller.
Ou du moins, si ce n'est pas fait, j'espère que ça sera
fait. En fait, c'est une première étape. Hein, ouais. Si tu réussis à tous les numériser puis à les mettre en ligne. Bien là, il s'agit qu'on puisse être en mesure d'aller voir ce qu'il y a.
Merci, Jules. On s'en va à la pause.
OK.
On revient dans quelques instants. À tout de suite.
On a tous de bonnes questions sur la vaccination. Est-ce que la vaccination est efficace?
C'est l'une des interventions les plus efficaces dans le domaine de la santé et elle est offerte dès l'enfance. Grâce à la vaccination, moins de personnes souffrent de maladies évitables et les conséquences de ces maladies sont plus rares dans la population. On peut penser à la poliomyélite, le tétanos ou la rubéole, tout comme l'hépatite B qui a pratiquement disparu chez les plus jeunes, car ils ont été vaccinés en bas âge.
Le vaccin, un moyen de nous protéger.
Quand on achète ici, c'est le Québec qui gagne.
On est de retour de la pause. J'espère que vous en avez profité pour faire de quelque chose d'important pour vous. Maintenant, nous, on revient avec l'actualité. On va élargir ça. Hein? On va mettre notre loupe à un autre niveau, au niveau du Québec. Je veux te parler du rapport accablant de la vérificatrice générale sur la gestion de la pandémie, entre autres dans le CHSLD, par la Coalition Avenir Québec. Ça a été réfuté, là, d'ailleurs, par le gouvernement. Quand même, c'est assez troublant quand on regarde ça, non?
Et moi, ce que je me demande là-dessus, tu sais, on met la faute, oui, sur le gouvernement, tant au niveau de la gestion de CHSLD, du problème qu'il y a un manque de main-d'œuvre, du problème que. Ouais. Je pense qu'il faut faire aussi de la part des choses là-dessus.
Le gouvernement, le dollar.
T'sais, oui, exact. OK, c'est un peu ça que je veux. Puis je veux pas l'excuser en disant ça par ailleurs.
Non.
Il a une responsabilité. Est-ce que les CHSLD, c'était la formule à utiliser ou est-ce qu'on ne pouvait pas avoir eu le maintien à domicile autrement qui aurait pu se faire aussi? T'sais, toutes ces questions-là sont en... Mais la décision a été prise de faire les CHSLD. Oui, on est
arrivé.
C'est
pas la CAQ qui a pris cette décision-là.
Non, au départ.
Non, puis aussi de faire des CHSLD privés.
Oui.
Ça aussi, là, ça vient du régime libéral.
Exact. Tu comprends? Je veux dire, ouais. Il y a eu un ensemble de phénomènes qui sont entrés en ligne d'accord. Ce qui est important de voir, c'est est-ce que, par exemple, on n'aurait pas pu être plus proactif en ce qui regarde la protection à accorder aux personnes aînées? Oui, ils ont été les premiers à être vaccinés, là, bon, ouais. Tout le kit, mais tu comprends?
Le mal était déjà fait.
Il y en avait déjà pas mal qui étaient... On avait fait de la place dans les CHSLD, mais ça l'a eu comme conséquence aussi, que tu sois en foyer privé, que tu sois en CHSLD ou en institution pour les... Il y a des places. Il va y avoir de la place de libre, là, actuellement. Tu sais, regarde, moi, je suis pas encore rendu là, mais je pourrais y aller, là, ouais. OK? Je t'avouerai que m'en aller dans un endroit juste de personnes de mon âge qui... non. Moi, j'irais pas. Maintenant, est-ce que c'est la pandémie qui m'amène à faire ça ou ma façon de penser habituelle? Donc, la pandémie m'aide à prendre ma décision encore plus rapidement.
Ouais, ouais. Il y a de quoi, on a une discussion, il y a quelques semaines, on a rencontré, avec mes étudiants, on rencontrait une Fatime, qui est une femme du Burkina Faso, qui est mariée avec un Québécois, donc qui était là. Puis on avait cette discussion-là qui était intéressante, parce que des fois, dans le rapport avec les autres cultures, nous, on a toute la prétention de vérité, tu sais. On va aller là-bas, puis on va dire, ouais, tu sais, votre gestion de l'égalité homme-femme est pas top. Tu sais, c'est la prétention qu'on va avoir. Puis en même temps, sa réponse était, ouais, mais votre gestion des personnes âgées, c'est pas top. Parce que c'est pour eux, il faut savoir, on les garde encore à la maison, ça fait partie de la famille. L'importance qu'on leur donne est encore primordiale. Quand nous, bien, souvent, avec notre
si on peut,
vie,
on peut s'organiser qu'à ça
je trouve ça triste, parquet. Ça. Mais non, mais juste pour dire qu'on a une réflexion de société à faire sur vieillir au Québec, moi, je pense.
Oui. Et ça, au moins la pandémie, je pense, nous amène à cela. Va nous amener à cela. Oui, on le sait, le projet gouvernemental là, des maisons des aînés nouvelles, là, qui met de l'avant. Mmh. Ouais, c'est quoi ça? Bien, en fait, c'est peut-être pas la non plus...
C'est variation sur la même thème.
Exact. C'est peut-être pas non plus la solution là, là-dessus. Si on regarde, je me souviens d'un reportage que j'avais fait avec l'ex-maire de Normandin, qui était professeur d'histoire et qui disait, à un moment donné, à 72 quelques, elle avait été appelée par son fils pour venir aider sur une réserve indienne dans le nord du... amérindienne, pardon, dans le nord du Québec, de venir enseigner pour remplacer, parce que le professeur qui était là, malheureusement, venait de se suicider. Okay. Or, il s'est ramassé, ça faisait un bout là, qu'il n'enseignait plus, maintenant il enseigne. Il dit, pourquoi j'ai accepté? Il dit, c'est que dans la culture amérindienne, il dit, il y a un respect des aînés.
Absolument.
Que nous, on ne retrouve pas dans nos sociétés à nous. Alors, il dit, quand je suis arrivé là-bas, il était quand même, comme il dit, pas jeune, mais lorsque je suis arrivé là-bas, les gens, il dit, la discipline, là, je n'avais pas à faire ça. Il dit, alors que quand j'enseignais ici à des étudiants, il fallait que je passe peut-être 30 % de mon temps à faire de la discipline. Pas tout. Il dit, on m'écoutait. Il dit, c'était un peu pour ça. Il dit, je pense qu'il était allé une couple de semaines pour aider à dépanner son fils, qui était directeur de l'école. Et mais ça m'amène à dire que, oui, on n'a peut-être pas... on a à regarder aussi l'utilisation que nous pouvons faire des aînés dans nos sociétés au lieu de les parquer.
Bien, moi ce que j'aurais apprécié du gouvernement... Tu sais, je comprends là, qu'il ne veut pas prendre les torts, là, ben, qu'il dise pas, c'est pas du tout de ma faute. Ça, je le comprends. Mais moi, ce que j'aurais apprécié, c'est de faire « OK, on peut pas revenir en arrière. Ça a été fait. On a peut-être fait des erreurs, on a peut-être fait des bons coups. Maintenant, je trouve que c'est un point là, important. À partir de maintenant, là, comment on veut collectivement gérer la vieillesse au Québec? »
D'où l'importance d'un débat. On parlait d'états généraux de l'éducation. Je pense qu'il y aurait un état général à faire sur le vieillissement de notre population et de quelle façon on peut accorder et non pas parquer les personnes âgées.
parce que ça va loin, cette réflexion.
Oui.
Tu sais, moi, je
oui.
regarde, mettons, moi, mon père, j'aurais le goût qu'il vienne habiter à la maison, qu'il vienne vieillir, finir ses jours à la maison. J'ai pas de problème avec ça. Mais lui, il a l'impression de déranger. C'est comme si collectivement, on disait, ah, t'es rendu vieux, tu déranges. Non, il y a tellement d'apports que les personnes âgées peuvent faire en société encore aujourd'hui.
Exact.
Mais il faut aussi prendre le temps de les écouter. T'sais. On est d'une génération qui n'écoute pas assez, selon moi, puis qui ne prend pas le temps d'écouter et d'aller chercher l'expertise de ça, ce que les Premières Nations font d'une manière...
Exact. Ça veut dire qu'ils ont, en fait, fait partie de leur culture de base.
Mais nous aussi, ça a fait partie de notre culture longtemps, mais il y a quelque chose dans notre modèle de société qui a changé. Puis
Je te dirais, c'est de l'américanisation de nos...
L'individualisme.
Oui, c'est en tout cas.
Intéressant. Bien, partons d'un spectre de la société à l'autre. On va s'en aller dans les CPE. Grève générale, bien, c'est pas la première fois qu'on en parle. Écoute, ça fait 2 ans que ça devrait être réglé, cette histoire-là. Mais là, ça devient très sérieux et dérangeant au niveau de la société. C'est que là, les syndicats ont des... mandat de grève générale illimité, 92% ce matin, oui. Je pense, ça l'a passé. Quand ça passe à 92%, là, c'est qu'il y a un réel mécontentement aussi. Et là, c'est les parents qui payent en ce moment, qui ont dû payer durant la pandémie et que là, ils se retrouvent encore à être obligés de s'organiser. Et je pense qu'on ne met pas trop ça sur le dos des personnes travaillant en CPE. Là. Je pense que tout le monde le sait qu'ils travaillent fort puis que c'est essentiel puis qu'ils ont besoin d'un petit encouragement, surtout en ce moment. Puis d'un autre côté, la pénurie de main-d'œuvre fait qu'ils ont le gros bout du bâton parce que là, à un moment donné, il va falloir que ça débloque quelque part. Bien, où on s'en va? Règlement, loi spéciale, parce que là, on s'en ira pas dans
le temps. Je pense que les deux éléments sont sur la table. Hein? La menace d'une loi spéciale a été aussi évoquée.
Il reste 2 semaines là, à l'Assemblée nationale. C'est sûr que ça se règle
avant Noël. Avant Noël, comme on dit. Il y a un élément, par ailleurs, c'est que où on en est rendu dans cette négociation-là, je pense qu'au niveau... et tout le monde, en fait, on nous dit que c'est ce qui se passe. Au niveau des personnes qui font... qui travaillent auprès des jeunes, donc... Elles, parce que c'est une grande partie des femmes, mm-hmm. et qui sont là, mais elles acceptent les offres qui sont sur la table. Mais c'est par solidarité à l'endroit des travailleurs autres, les cuisinières et ce qu'on-là, qui n'ont pas eu le même type d'augmentation ou ce genre de... Et c'est par solidarité qu'on fait en sorte que... Parce qu'on accepterait les offres qui sont sur la table pour les éducatrices, mais... je comprends. Je trouve ça important, cet élément-là, de la solidarité. Dans les années 70, là, le syndicat, là, on se battait et on avait de la solidarité sur le show. On a un peu oublié ça par la suite et ça semble vouloir revenir pour pouvoir être en mesure, par solidarité à l'endroit des mêmes types,
Mais au niveau de la solidarité, je suis d'accord, je suis content de voir plus de solidarité, mais je pense que la perte de solidarité vient aussi un peu de la gestion syndicale qui a été faite dans les dernières années, où on a plus défendu nos travailleurs que les travailleurs.
Ouais.
Et puis que on fait toujours appel à la solidarité quand on a des problèmes, mais on voit rarement les gens être solidaires quand c'est les autres qui ont des problèmes.
Exact.
Moi, là, j'ai...
Exact. Mais c'est peut-être aussi pour ça que... Bon, on commence à voir une forme de grogne, naturellement, de la part des parents, hein, mais on commence. Et la grève, là, s'en vient, fait quand même tout l'été un petit bout, là.
Oui, une journée de tendance.
Une journée de tendance, ici, puis ça, puis il faut que tu y ailles garder, là. Ça te semble bien qu'on ait gardé.
Puis il y en a qui vont dire, mais là, pourquoi ils font encore la grève? Mais c'est le seul moyen qu'ils ont pour mettre de la pression sur le
gouvernement. Oui, sûr.
Ils n'en ont pas d'autres.
C'est ça. Sans ça, ils vont fort probablement avoir la loi spéciale pour pouvoir être en mesure de forcer le retour au travail. Mais encore là, tu sais, à un moment donné, je me souviens, avec Joannie, on avait discuté de ce phénomène-là et le gouvernement venait d'annoncer que même si les négociations n'étaient pas finies, on mettait de l'argent dans on payait tout de suite les augmentations qu'on voulait donner. Je me disais, ça va peut-être amener un changement rapport de force.
On règle le point le plus important.
Dans le rapport de force. Puis en bout de compte, Oui, ça permet de faire en sorte que les éducatrices se disent « Bon, bien, OK, on est prêt à accepter ça, mais par solidarité, donc, à l'endroit des autres travailleurs. »
Parce qu'il faut réfléchir à quelque part aussi sur nos valeurs, là. Tu sais, j'ai rien contre les animaux, mais un gardien d'animaux qui a sa spécialité puis qui est bien, va quand même gagner plus du double de quelqu'un qui travaille en CPE, qui s'occupe de nos enfants, là. Puis ça, c'est encore la vieille histoire de la charge mentale où les femmes se sont toujours occupées des enfants, donc c'était gratuit, là, au courant d'un autre millénaire. Puis là, à un moment donné, bien, tu sais, si on veut justement que les femmes, l'égalité homme-femme, que les femmes aient accès au marché du travail davantage, etc., bien, ça prenait des outils comme ça, qui sont extraordinaires, qui sont un modèle, d'ailleurs, partout dans le monde, on veut copier notre modèle, là. Ça doit pas être parce qu'il est mauvais, tu sais.
Ah oui, oui. J'ai hâte de voir de quelle façon, oui, ça va se régler. Entre-temps, ben je garde.
En tout cas, j'ai une grosse pensée pour les éducatrices et les gens qui travaillent en CPE. Là. Nous, nos enfants sont passés par là, puis on a que des bons mots à leur dire. Là. C'est ça. Ah, le nouveau Parti libéral du Québec. Là, je dis ça parce que je voyais ça ce matin puis je trouvais ça intéressant. Tu sais, le Parti libéral, ça va pas bien. À peu près 10 % d'intention de vote chez les francophones. Bon, ils ont des comtés un peu sûrs, mais qui ont l'air d'être de moins en moins sûrs dans les quartiers plus anglophones de Montréal. Et là, on sent que le Parti libéral, il veut refaire son image. Il veut plus être le parti de Taschereau, il veut plus être le parti de... Non, tu sais, on veut refaire quelque chose de nouveau.
Elle ne veut plus être leur partie du copinage.
Bien là, mais c'est ça. Puis là, on a l'impression que le parti va être plus à gauche, plus environnementaliste, fédéraliste. Donc, il y a de l'air de mettre des thèmes pour tenter d'aller séduire un nouvel électorat ou de ramener, je sais pas, j'ai de la misère à voir.
Mais parce peut-être que... de répondre davantage. Moi, je pense qu'il faut qu'ils répondent davantage à ce que la société québécoise, parce qu'on parle du Parti libéral du Québec, a besoin en 2021. Et ce n'est pas... Ouais, il y a une culture qui va falloir, qui est peut-être en train de changer, mais qu'il faut qu'il change au niveau du Parti libéral. Et cette culture-là, puis je le sais que je ne me ferai pas aimer, là, mais le copinage, le fait d'aider son chum ou sa copine à avoir plus d'accès à un contrat gouvernement. Tu sais, qu'on le veuille ou non, là, c'est ce qui les a tués.
Depuis Taschereau.
Ah oui, oui. on a eu, en 1960, quand ce gouvernement-là a pris le pouvoir pour faire la révolution tranquille, on a vu arriver, là, oui, une équipe qui voulait mettre de l'avant et répondre aux besoins qui étaient modernes de la société québécoise. Et le Parti libéral actuel est dans l'obligation de changer. Il ne faut pas qu'on retrouve un Parti libéral qui était comme le dernier qui a pris le pouvoir.
Bien, c'est là où j'allais, parce que quand tu me parles du Parti libéral de Jean Lesage, bien, il y a eu un changement à partir des années 2000 avec l'arrivée de Jean Charest, où le Parti libéral est devenu un parti conservateur. Même s'il continuait à s'appeler le Parti libéral, c'était vraiment les valeurs conservatrices qui étaient mises de l'avant.
Exactement.
Et là, j'ai l'impression qu'on veut revenir au vrai libéralisme, le vrai, là, on peut mettre des guillemets là-dessus. Et j'aimerais dire bravo à Mme Anglade, dans le sens où... Et là, elle démontre une volonté, une audace politique que, puis je pense qu'elle n'a pas le choix, mais elle le fait. Elle pourrait pas le faire, puis s'ancrer dans les vieilles valeurs, mais elle décide de tenter le coup. Et moi, je dis bravo. Je trouve qu'on manque souvent d'audace politique. Là, on l'a. Maintenant, on verra ce que ça va. Là. Ça ne veut pas dire que
est-ce qu'on pourrait assister à de nouveaux schismes au niveau du Parti libéral? Bien, tu sais, peut-être
aussi...
Ce matin,
là, dans le journal, le gros titre, c'était « Québec solidaire sans la souveraineté ». C'était ça l'image du nouveau Parti libéral. Là, tu fais comme « OK, OK, ouais, là, on va loin. »
Ouais.
Mais là, on sent que c'est un gros changement quand même.
Oui.
Puis on va perdre des membres, on va perdre des figures de proue du parti qui sont là depuis longtemps, mais on va voir aussi arriver d'autres membres.
De nouveaux visages.
Ben, oui,
de nouveaux visages. Et non seulement de nouveaux visages, mais aussi des idées rafraîchissante, qui correspond, moi je maintiens, là, qui correspond au Québec moderne. pour répondre aux problématiques, tu sais, veut dire qu'on revient à, il va falloir que le Parti libéral nous dise, oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer avec eux dans le monde? On, tout à l'heure, on discutait de mettre de l'avant les États-Généraux sur les... Et c'est quoi que vous allez... Est-ce que vous a... Est-ce qu'ils vont nous arriver avec... Ben ça nous prendrait plus de CHSLD ou ça nous prendrait plus... C'est peut-être une réflexion, des idées qu'il faut qu'ils soient amenés et non pas juste de la personnalisation de l'individu. C'est pas vrai que tu mets un docteur à la tête du ministère de la Santé que tu as nécessairement un meilleur système de santé.
On l'a vu. Mais ce qui est intéressant de ce que tu dis là, c'est quand tu regardes la réflexion du PLQ, ils se sont mis à écouter, mais beaucoup, les jeunes libéraux.
Aussi.
Et là, tu fais comme, ah ah, enfin, ça, ça sert à quelque chose. C'est pas juste une filière pour nous faire pousser des futurs députés, là.
Non,
que là, ils ont des idées, on va se mettre à les écouter si on veut justement se rajeunir, être plus connecté sur le terrain, sur le territoire.
Exactement, exactement. Non, chapeau, moi aussi, je le dis à Mme Anglade, là, qui veut effectivement
ça
orienter.
Ça ne sera pas facile aller dans les bâtons dans les roues.
Exactement, puis elle est dans l'obligation. Le Parti libéral est dans l'obligation de faire cela.
Oui.
Parce que ça, tu ne peux pas revenir avec la formule qu'il y avait en 2018 avec le Parti libéral.
Parle-en au PQ.
Oui, ben, d'ailleurs, lui aussi, il va falloir qu'il réfléchisse.
Oui, bien ça, on dirait que sa réflexion est faite et que lui, il a décidé de ne pas écouter les jeunes. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Restons en politique provinciale. La CAQ, hein, Noël avant le temps, on nous donne 5 milliards de bonbons avant Noël pour pallier à l'inflation. Je pense qu'on pourrait défendre tout ça de manière très pragmatique. Malheureusement, comme les élections sont dans moins d'un an, on a l'impression que c'est que la campagne électorale est débutée.
C'est effectivement une façon... On a la chance d'avoir actuellement une situation financière, une situation des finances publiques intéressante. Tu sais, je veux dire, tu avais prévu un gros déficit, tu as la moitié de ce gros déficit-là qui va arriver.
Je suis content que ça m'arrive dans la vie, ça.
Ben, moi aussi. Moi aussi. Maintenant, tu comprends, ça permet de faire en sorte que le gouvernement puisse dire, bon, ben écoute, oui, on en retourne, on en retourne. Où est-ce que... Moi, j'ai de la difficulté avec ça. Quand tes finances publiques vont bien, là, tu vois apparaître immédiatement le spectre de « on va payer ses impôts ».
Non. Faut arrêter ça.
Mais ça, là, ça. Ça, c'est parce que c'est un faux discours de dire ça. Et c'est pas vrai que c'est en baissant les impôts que tu m'en retournes un peu d'argent dans mes poches. Je suis d'accord avec ça. OK? En plus, je ne fais même pas partie de la gang qui va le nommer.
Non, mais les baisses d'impôts, on l'a vu avec le gouvernement de peur. Tout ce qu'on avait réussi à économiser puis à faire des surplus à l'époque de Jean Chrétien, on a tout perdu juste pour des baisses d'impôts. Puis là, ça fait qu'on a moins de financement pour nos services.
Exactement. C'est ça l'affaire.
On veut revenir à l'État-providence.
Donc, c'est pour ça que je dis, oui, on a peut-être une situation financière. Mais, tu sais, il ne faut pas bien être même en déficit, là. Il ne faut pas l'oublier. Et qu'on avait fait passer une loi dans les années, fin des années 90 où tu ne pouvais plus faire de déficit. Tu ne pouvais plus présenter un budget déficitaire. Ce qui semble avoir été oublié. Là. Il y a
plus de lois.
Il y a-tu des lois qui sont torsées à un moment donné? Mais en tout cas, ceci étant dit, la situation quand même va relativement bien. Tant mieux pour nous. Ça va peut-être nous permettre de passer à travers une cinquième vague de COVID aussi.
Ah, je ne voulais pas en parler aujourd'hui.
Ah, mon tati.
On est-tu tanné? Hey, parlant de diversion, je veux te parler du hockey parce que, ben oui. Non, mais moi, je trouve ça fantastique, tu sais. Bon, on va faire des états généraux sur le hockey. Le premier ministre trouve qu'il n'y a pas assez de joueurs québécois dans la Ligue nationale. Là, on ramène le spectre du retour des Nordiques. Wow! Au niveau de diversion politique, là, ça, super. Hein? Mais je pense pas que le comité là, mené par Marc Denis est inutile. C'est vrai qu'il faut redémocratiser le hockey, qu'il faut le rendre plus accessible. Il y a plein d'affaires. Mais c'est l'annonce. Et de jumeler ça avec un possible retour des Nordiques, là, j'ai fait, mon Dieu Seigneur, probablement que les plans pour le troisième lien vont pas super bien. Fait ouais. qu'on veut donner des petits nananes ou des petits espoirs aux gens de Québec.
À Québec, là. À Québec, pas possible.
Ben, je sais pas. Moi, c'est peut-être une analyse simpliste.
Ben, t'as, ça m'amène à regarder aussi l'importance de ce sport dans la vie sociale. Et je te parle pas de la vie sportive. Hein. Dans la vie sociale des Québécois et des Québécoises aussi. Ouais. Tu sais, à un moment donné, quand les...
Du pain et des jeux.
Oui, oui.
Hein?
Oui, ça, ça aura toujours une bonne formule
ouais.
pour pouvoir être en mesure d'être attrayant comme gouvernement.
C'est juste qu'à ce le pain, c'est un pain hot dog, puis il te coûte 10 piastres.
<Ouais. rire> Ça s'appelle aussi l'inflation. Ouais. Mais indépendamment de ça, il reste que le hockey, c'est encore un élément dans notre société. Tu sais, quand les Canadiens font perdre comme ils font là depuis le début, c'est la catastrophe au Québec. C'est la catastrophe au Québec. Hey, c'est un sport, là.
Est-ce que tu as l'impression que ça, il va y avoir aussi à un moment donné un transfert générationnel? Parce que moi, ce que je vois en ce moment, le hockey, là, ça marche encore au bout à partir des jeunes de ma génération et plus vieux. Mais moi, je travaille beaucoup avec des jeunes et le nombre de jeunes qui sont, je m'excuse, torches solides du hockey, là, il y en a beaucoup. Est-ce qu'on est en train de passer à d'autres choses à cause, justement, qu'on a oublié de cette accessibilité-là, que c'est rendu un je veux dire, pour aller voir un match des Canadiens, il faut vraiment qu'ils soient riches. Hein, je veux dire...
Puis en plus, tu n'as quasiment plus à TV à part que d'être abonné à...
Des chaînes spécialisées.
À des chaînes spécialisées. Donc, ça te coûte là, aussi, peut-être moins cher que d'aller directement sur place. Mais oui, je suis d'accord. J'observe ce que tu viens de dire, là. C'est-à-dire que, bon, peut-être qu'au niveau de... Par contre, moi, de mon côté, ce que je peux te dire, c'est que, oui, j'en ai aussi, là, des jeunes, moi.
Il y a encore de l'intérêt.
Oui, oui. Et de l'intérêt et à le jouer.
Ouais.
Et à l'écouter.
Mais le jouer, ça, c'est une affaire.
Oui, mais à le jouer et à l'écouter, j'ai jamais été un très grand fan, moi, du hockey, sauf en très, très, très jeune âge, on écoutait ça.
Il y avait rien que ça.
Oui, en plus, on avait quasiment juste ça. Mais mon fils m'en parle encore. Hey, t'as-tu vu dans le game des Canadiens? Je te dis pas que tous ces chums sont aussi comme ça, mais il y en a beaucoup aussi qui
mais
sont
tu vois,
comme ça.
Moi, c'est le contraire. Intérêt. Moi, ouais. Mon père, il écoutait beaucoup, beaucoup le hockey. Lui, il l'écoute même plus, tu sais. Fait que j'ai même plus l'occasion d'en parler.
De pouvoir à l'amener.
C'est particulier, là. Je sais pas, puis c'est peut-être juste dans ma bulle à moi.
Oui, mais... non, il y a un phénomène, effectivement, où l'intérêt... du sport est peut-être moins grand à être un spectateur face à ce sport, pas nécessairement pour le pratiquer.
Mais peut-être que ce changement de génération-là va être aussi bénéfique dans le sens où il y a une espèce de génération de fans des Canadiens là, qui nous ramène tout le temps Guy Lafleur puis Jean Béliveau. Là. Dans le temps, le hockey a changé aussi. On est rendu ailleurs. C'est rendu une business qui est différente. Fait que peut-être aussi que ça va être bénéfique aussi là, de changer un peu le paradigme qu'on a sur notre appréciation, sur notre fanatisme en lien avec le hockey.
Par rapport au hockey. Bien, il restera toujours, et je suis d'accord avec toi, on a eu une très belle diversion, y compris même dans notre émission.
Hein, tu vois, on a fini par parler de hockey. Dernier petit sujet, écoute, on peut pas passer à côté, on en parle des changements climatiques depuis vraiment longtemps. Mais là, quand on regarde, tu sais, je regardais l'été dernier les feux de forêt en Colombie-Britannique. Là, c'est rendu les inondations. Puis là, c'est rendu à Terre-Neuve aussi. Puis là, c'est... Et là, ça se multiplie, tu sais. Je pense que ça fait partie aussi du changement. On sort de la COP26, du changement de discours des politiciens. Parce que là, ils le voient, là. Puis là, bien, vous allez voir, là, à un moment donné, là, c'est les compagnies d'assurance qui vont mettre de la pression pour l'environnement. Puis là, ça va être les... Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont avoir. Puis on continue quand même de construire sur des terres inondables. On continue de créer des problèmes. Il va falloir, à un moment donné, se prendre en main et donner un sérieux coup de barre. Peu importe, là, on va dire, tout le temps, là, c'est tout le temps, on oppose souvent environnement puis économie. Il va falloir arrêter ça. Là. Ça peut aller ensemble, de un. Puis de deux, bien, pour la collectivité puis pour notre bien-être collectif, il va falloir, à un moment donné, prendre des mesures pour que ça arrête, là.
Oui, on en vient, puis ça me fait faire aller référence à la COP26, effectivement, là, où ce qu'on se disait, T'sais, il y a trois grands pollueurs qui ne sont pas présents et qui ne sont pas là. Et ils sont responsables, à tout le moins, semblerait-il, d'environ 26 à 28 de toute la pollution mondiale alentour. C'est tant que les États-Unis, la Russie et la Chine ne voudront pas.
Ils vivent des déserts. La Chine, ouais, les États-Unis,
ils ne le voient pas. Parce que le charbon demeure encore. Ah, oui. Écoute. Mais c'est en Allemagne, t'as vu le reportage, Allemagne, hein? Les champions de l'environnement, là, du verre, Christophe, des lacs au complet, des montagnes, des champs au complet, de mines à ciel vert, de charbon, pour pouvoir être en mesure de pouvoir...
fournir tout le monde.
Yes!
C'est certain, par exemple, quand tu penses à la Russie, là, quand il y a des grands feux de forêt qui détruisent toute la Sibérie, bien, c'est sûr qu'il y a 12 personnes qui habitent là-bas. Ça a moins un impact.
Oui, bien, ça a un impact après. Ça a un impact sur ton changement climatique épouvantablement, là. Hein?
Tiens, regarde, parce qu'à un moment donné, ça va être chez nous que ça va arriver.
Bien, oui, bien, regarde, en Alberta, qu'on le veuille ou non, là, il y a 2 ans ou 3 ans, là, tu sais, quand...
McMurray.
Bon, McMurray. Hey, c'est tout un secteur, ça, là. Qui est mort. Qui est mort. Je regardais où est-ce que je vais, dans le coin de mon chalet. Il y a eu un feu de forêt lourd, une dizaine d'années, là, OK? Là, ça a tout repoussé. On est chanceux d'avoir ça, nous, ici. Oui, il y a eu de la plantation, ça l'a permis de favoriser, mais c'est pas grave. Entre autres, c'est le fameux coin où est-ce que Greenpeace avait été prendre des films pour démontrer... le ravage des forêts. Bien, en fait, un feu de forêt qui est là. En revenant à l'autre.
30 secondes.
OK, bien, disons la chose suivante. Oui, les changements climatiques, on est dedans. Et il va falloir probablement qu'on a des actions individuelles à prendre, mais il y a aussi des actions gouvernementales qui se doivent d'être prises. Et je ne sais pas jusqu'à quel point l'environnementaliste que nous avons au ministère de l'Environnement fédéral va être capable, lui, de nous amener à des choses.
Très intéressant comme finale. Merci, Jules Simard, d'être là. Bon temps des fêtes. C'est notre dernière avant Noël. Ouais, merci. Ouais. On se revoit après Noël. Merci à vous d'être là. Nous, on est de retour la semaine prochaine pour une dernière émission avec Joannie Riendo avant la pause des fêtes. Bonne semaine!